Clément Abaifouta et Éric Brody, bonjour.
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 Comment avez-vous réagi à l'énoncé du verdict, Clément Abaifouta?
Ben, j'ai presque manqué de mots pour apprécier à sa juste valeur ce verdict. C'est pour moi l'ultime jour, le plus grand jour de ma vie.
Il y a eu déjà ce jugement en première instance au mois de mai 2016, mais vous restiez un petit peu sur vos gardes, c'est ça?
Oui, parce que vous savez, en Afrique, on ne sait jamais ce qui peut arriver au lendemain. Hein. Donc, il fallait manifester sa joie, mais à 80%. Désormais, les petits cénabrés qui traînent partout, nous allons les rattraper. Du moins, le droit va les rattraper.
Éric Brody, vous étiez inquiet aussi ces dernières semaines. Vous vous demandiez si le jugement d'appel ne pouvait pas inverser le jugement de première instance.
Non, pour moi, les preuves étaient très solides quand même. Les documents, les instructions écrites à la main de Issenabré, les milliers de documents de la police politique, des personnes qu'il a lui-même envoyées en prison, qu'il a vues en prison. Je pense qu'il n'y a pas de crime mieux documenté en Afrique. On avait peut-être un peu de préoccupation sur la question de la peine, puisqu'il y avait des pressions, on le savait, pour que la peine soit diminuée. Mais en cour d'assises, il n'y a pas de raison pour que le cour d'appel change ni la décision ni la peine.
Des pressions politiques, des pressions de chefs d'État?
Ben, on savait qu'il y avait des pressions sur le procureur. Le procureur qui, en première instance, avait requis la peine à perpétuité et en appel, s'en était remis à la sagesse de la Cour. Mais je pense que le droit a été dit, si Issenabré ne mérite pas la perpétuité, dans le monde, qui pourrait le mériter?
Clément Abaifouta, vous avez été déçu de voir qu'Issenabré a refusé d'être présent à l'audience, à l'énoncé du verdict?
Non, mais moi, je n'étais pas déçu. Dites-vous bien que le fait même que Issenabré soit porté comme un bébé, c'était pour nous déjà une victoire. Parce que le lion de l'UNIR, quand même, avoir Issenabré au tribunal, c'était déjà une victoire et ça emporte, n'est-ce pas, toute notre satisfaction.
Le régime Issenabré condamné, mais le régime de son successeur Idriss Déby suscite la controverse aujourd'hui. Ainsi, mardi dernier, c'est une démarche sans précédent. 5 ambassadeurs en poste à N'Djamena lui ont demandé de libérer les militants de la société civile qui sont en prison. Est-ce que vous regrettez qu'on n'en parle pas plus?
Oui, je le regrette vivement, simplement parce que le Tchad est un pays qui se veut démocratique et il faudrait qu'il ait, n'est-ce pas, la liberté d'expression, il faudrait que les militants de droits de l'homme, les journalistes aient, n'est-ce pas, la liberté de faire librement leur travail. Mais lorsque, pour une raison qui, à mon sens, n'est pas assez suffisante, on les arrête, on les met aux arrêts, c'est assez regrettable et je crois qu'on devrait, n'est-ce pas, amplement en parler.
Éric Brody, on salue le fait que ce procès d'un ancien dictateur africain ait eu lieu sur la terre africaine, mais en réalité, est-ce que ce n'est pas une ONG occidentale, Human Rights Watch, que vous dirigiez à l'époque, qui est à l'origine de ce procès? Est-ce que ce ne sont pas des fonds de l'Occident qui ont permis l'organisation de ce procès?
Non, ce procès a été imaginé dans la tête d'un prisonnier, Suleiman Gengeng, qui, au fond de sa cellule, pendant que les gens meuraient autour de lui, a juré que s'il sortait vivant, il allait travailler pour la justice. Les victimes, comme Clément Abaifouta en face de moi, comme les feux Samuel Togoto, Ismaël Hachim, se sont rassemblés pour exiger justice. Ce n'est que 10 ans après, avec l'affaire Pinochet, que les victimes ont été mises en contact avec nous et, comme bons militants, on les a aidés. Mais c'est vraiment la ténacité et la persévérance des victimes qui ont créé les conditions politiques pour que leur dictateur soit jugé en Afrique avec le financement de l'Union africaine, du Tchad et des pays occidentaux. Mais il ne faut pas chercher. Les procureurs étaient sénégalais, les juges étaient sénégalais et africains. Les avocats des victimes étaient tchadiens. Il ne faut pas toujours chercher le blanc dedans. Je pense que c'est insulter le travail des victimes et le travail du tribunal que de toujours chercher le blanc derrière quelque part. Moi, je suis fier d'avoir accompagné les victimes. Je suis fier du travail acharné que nous avons accompli. Avec Clément, avec Suleiman, avec Jacqueline, ça fait 17 ans qu'on travaille ensemble. Et c'est une joie, c'est une victoire partagée. Mais en premier lieu, ce sont des rescapés qui ont forgé cette histoire. D'ailleurs, ça s'est vu au tribunal. Il n'y a jamais eu un procès qui est autant le procès des victimes. Une rescapée esclave sexuelle qui dit « Moi, je me sens forte et fière de témoigner là. » Et ce monsieur qui voulait me chosifier, il doit m'écouter. Et d'ailleurs, c'est le même qu'Adija Larouge qui nous a dit après au chat Tchad, que pour elle, c'était pas important qu'il soit condamné ou acquitté. Pour elle, l'important, c'était de pouvoir lui dire en face un secret qu'elle avait gardé pour elle-même pendant 25 ans.
Clément Abaïfouta, est-ce qu'il s'agit d'une justice de blanc?
Je pense pas. Pour moi, le droit n'a pas de couleur. Que vous soyez noir, blanc, vous avez, n'est-ce pas, posé un acte négatif, vous êtes passible d'être jugé. Non, mais qu'on ne vienne pas nous distraire que c'est la justice des blancs, c'est la justice des noirs. Pour moi, le droit frappe le noir, le droit frappe, n'est-ce pas, le blanc. Donc, qu'on ne vienne pas me distraire.
Clément Abaïfouta, Reid Brody, merci.
Merci.
Merci beaucoup.